Alors, dans cette dernière soirée du 18 février, nous allons poursuivre notre thème, les faits divins et nos sentiments, ce premier volet mort et ressuscité avec Christ. Et nous vous avons demandé de lire ces chapitres 5 à 8 des Romains qui contiennent vraiment la grande doctrine que nous révèle l'apôtre Paul et qui répond au fond à cette question que déjà le patriarche Job se posait: comment un homme peut-il être juste devant Dieu? C'est le grand sujet de cet épître aux Romains qui a préoccupé, cette question qui a préoccupé tant d'hommes au travers de l'histoire, et en particulier ce Job dont nous avons étudié la vie au camp Mahanaïm de l'année dernière, sous le thème « Connais-toi toi-même », comment un homme peut-il être juste devant Dieu? Alors, il y a la réponse des religions, comment est-ce qu'on peut être juste devant Dieu? Par les œuvres, et toutes les religions vous disent ça, c'est les œuvres, il faut faire les œuvres de la loi, et tant qu'on est sur ce principe des œuvres, est-ce qu'on a des certitudes?
Non.
Absolument pas. Un jour, parce que ça a bien marché, on est au sommet, et puis, le jour suivant, il y a la chute, il y a quelque chose qui n'a pas marché, et on est au fond du gouffre. Alors, nous avons une vie en dents de scie. Est-ce que votre vie chrétienne est une vie en dents de scie? Un moment d'exaltation, et puis tout à coup, la déprime. Puis on recommence un moment d'exaltation, la déprime. Alors, ce n'est pas un témoignage, comprenez-vous? Sur la question des œufs, personne ne peut être sûr de son salut. De sorte que cette réponse, les œuvres, ne nous donne pas la paix. On ne peut pas avoir vraiment la paix, on ne peut pas avoir le vrai bonheur, la joie, sur le principe des œuvres. Et je vous ai signalé que Luther en particulier, qui pensait pouvoir être sauvé par ses œuvres, il était complètement découragé. Et tant qu'on est sur le principe des œuvres, il y a des moments où on voudrait se suicider. C'est absolument certain. On a une conscience qui est réveillée, on voudrait faire le bien, et puis on arrive à constater qu'on n'a pas de force pour l'accomplir. Ou alors, n'est-ce pas, on a la conscience déjà bien cautérisée, endurcie, et puis on vit dans l'illusion. On croit qu'on a fait des choses extraordinaires, et puis au fond, ça s'appelle, dans le langage de Dieu, tout ce qu'on a fait, rien. Rien, rien. Vous pouvez relire le chapitre près de la première épître aux Corinthiens. Vous pouvez avoir des dons spirituels, semble-t-il. Vous pouvez faire des œuvres remarquables. Mais si vous n'avez pas l'amour, ce n'est rien. Ce n'est rien. Et cet amour, qu'est-ce que c'est? Au fond, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est le Christ, c'est Dieu. N'est-ce pas? En dehors de Christ, on ne fait rien. Et c'est Jésus qui l'a dit. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de Jésus, nous ne pouvons rien faire. On fait des choses, mais Jésus les appelle rien. Ce n'est rien. Et cela, vous devez vraiment le savoir. Alors, inutile de continuer de ce côté-là. Mais on voudrait avoir la réponse à cette question. Comment être juste devant Dieu? Alors, l'Épître aux Romains nous montre qu'on ne peut être juste devant Dieu que par la foi. Or, qu'est-ce que c'est que la foi? Et c'est encore, ici, ce n'est pas pour vous faire de la réclame, mais dans ces petites brochures, tous ces sujets sont traités. La différence entre la croyance et la foi. Tout le monde a une certaine croyance. Et la différence entre la croyance et la foi. Est-ce que vous avez une croyance ou est-ce que vous avez la foi? Il y a une foule de gens qui ont des croyances. Il y a des croyances catholiques, des croyances protestantes, des croyances orthodoxes, des croyances musulmanes, des croyances hindouistes, des croyances bouddhistes. Mais est-ce que vous avez une croyance ou bien est-ce que vous avez la foi? Or, qu'est-ce que la foi? Nous n'avons pas une définition de la foi dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, en fait. Il est dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais en fait, ce n'est pas une vraie définition, ça. Hein. C'est une manifestation de ce qu'est la foi que vous avez dans Hébreux 11. Mais la foi, elle vient de ce qu'on entend, Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est croire ce que Dieu nous dit. La foi, c'est pas croire que Dieu existe. Parce que ça, c'est tout à fait raisonnable de croire que Dieu existe. Croire en l'existence de Dieu ne sauve personne. Parce que le premier qui croit en l'existence de Dieu, c'est qui? C'est Satan, n'est-ce pas? Alors, si vous dites que vous avez, que vous croyez en Dieu, eh bien, vous n'êtes pas plus avancé que le diable. Je suis navré de vous le dire. Hein. Vous dites que vous croyez en Dieu, vous n'êtes pas plus avancé que le diable. Le diable n'a jamais pris le temps d'essayer de nier l'existence de Dieu. Nul ne nie Dieu s'il n'a intérêt à ce qu'il n'existe pas, disait saint Augustin. Et puis Victor Hugo disait, nier Dieu, eh bien, c'est un aveuglement et une folie. Un aveuglement et une folie. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc il est parfaitement raisonnable de croire. Ce n'est pas une difficulté intellectuelle. Oh, mais nous sommes tellement des fauchetons, hein, que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Nous aimons à nous réfugier derrière une difficulté intellectuelle. Je voudrais bien croire, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Demande à Dieu qu'il t'amène à la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, avoir la foi, c'est croire ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu nous dit au sujet de nous-mêmes, et puis ce qu'il nous dit au sujet de son Fils. C'est de la foi en ce double témoignage que... Alors, dans l'Épître aux Romains, qui traite justement de cette grande question de la justification par la foi, vous avez dans les premiers chapitres l'état de l'homme devant Dieu. Et ça, c'est un fait qui est développé. Qu'est-ce que l'homme? Il est pécheur, et non seulement pécheur, mais perdu. Et ça confirme ce que vous avez lu aussi dans Jérémie et dans toute l'œuvre, et il est perdu. Et c'est ce que vous avez dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Et il n'y a pas de différence, parce que quand on commence d'être corrompu, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et la différence n'est que dans l'état avancé de la corruption. Tandis que vous voyez bien que le Seigneur qui était sans péché, comme je vous l'ai dit, sa chair ne pouvait pas avoir la corruption, tandis que la nôtre, elle voit la corruption. Notre chair, si nous mourons, eh bien, elle se décompose. Notre chair, voilà. Tandis que la chair du Seigneur ne verrait pas la corruption. C'était annoncé prophétiquement dans le psaume 16. Hein. David avait annoncé cela, parlant non pas de lui-même, parce que lui, il a vu la corruption, mais parlant d'un plus grand que lui, qui serait le Messie. Sa chair ne verrait pas la corruption. Jésus est ressuscité, il n'a pas vu la corruption, parce que lui, il était sans péché. Mais, pourtant, il est mort à cause de quoi? À cause de nos péchés. Il a pris nos péchés. Maintenant, je vous ai dit que je vous ferai passer un petit examen. Je voudrais vous demander, donc ça vous l'avez compris, nous sommes donc des créatures, nous avons un commencement, nous n'avons pas toujours existé, Dieu, nous avons cette vie qui vient de Dieu, qui nous a créés, nous reconnaissons notre créateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans cet état? Qui est comme Adam avant la chute. Ou comme Ève. C'était Ève. Quand Adam a vu
Ève, lui qui avait donné le nom à tous les animaux, qu'il n'avait pas trouvé un être qui lui correspond. Quelqu'un disait qu'il a créé mon homme. Hein? Ça correspondait tellement. Hein? Dieu avait fait tomber un sommeil sur Adam. Au fond, c'est lui qui est l'auteur de l'anesthésie. Dieu a fait une opération sans douleur à Adam. Et il a fait tomber un profond sommeil sur l'homme et il a sorti sa côte et puis il a façonné l'être qui allait correspondre à Adam. Et c'est très beau parce qu'au fond, Ève n'a pas été tirée de la poussière. Adam a été tiré de la poussière, mais la femme n'a pas été tirée de la poussière. Elle a été tirée d'Adam. Et puis là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle a été tirée d'Adam? Alors, au fond, Adam retrouvait quelque chose qui était de lui, qui lui manquait. Alors là, vous pouvez allonger tout cela sur le mariage, sur ce que devrait être le mariage, sur la pensée de Dieu, sur la correspondance qu'il devrait y avoir. Mais évidemment, nous maintenant, nous sommes comme Adam, en fond, avant d'avoir eu l'intervention de Dieu, nous cherchons nous-mêmes. Hein. Et qu'est-ce que nous trouvons? L'homme animal. Oui. Nous trouvons. Il y avait des êtres, mais il n'a pas trouvé d'êtres qui lui correspondaient. Si vous cherchez, vous pouvez trouver, mais ça correspondra. Au lieu de dire, Seigneur, voilà, je m'attends à toi, et puis il vous donnera le compagnon ou la compagne et qui vous correspondra. C'est lui qui a institué le mariage, et nous devrions revenir à ces vérités premières. Alors, il n'y a donc personne qui se trouverait dans cet état qui dirait « Moi, je n'ai jamais péché. » Vous êtes tous descendants d'Adam, vous acceptez ça? Oui. Alors, si vous acceptez qu'il y a eu la chute et que vous êtes à la ressemblance d'Adam pécheur, c'est arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se trouve dans cet état-là? Esprit, âme et corps. Dans les ténèbres sans vie, mort spirituellement dans ses fautes et dans ses péchés. Nous aurons encore l'occasion demain de souligner la thème au sujet de l'âme et de l'esprit. Ou bien est-ce que, puisque nous avons vu maintenant que Dieu, dans son amour, pour sauver l'homme, et c'est ce que vous avez lu dans les Romains, eh bien, il s'est, lui qui était de condition divine, il s'est incarné, il a revêtu alors ce corps de chair qui est sans péché, né de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit, voilà sa divinité et son humanité parfaite. Il est venu, il a été le modèle, le dernier Adam, celui qui a recommencé la vie de l'homme pour montrer à l'homme ce que Dieu voulait de lui, et il a donné sa vie. Mais il fallait d'abord ôter le péché. Parce que le salaire du péché, c'était quoi?
La mort.
La mort. Et l'Écriture dit aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de pardon. Et Dieu a enseigné cette vérité à tout ce peuple d'Israël. Et je dirais que même les païens avaient compris cette vérité, que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Qu'est-ce que vous voyez sur les autels des païens? Du sang, mais pas des sacrifices. Et dans leur recherche du plus excellent sacrifice, qu'est-ce que les païens offraient? Un enfant. Pour quelle raison? Parce que l'enfant, il n'a pas encore commis des péchés. Hein. Il n'a que péché, mais il n'a pas encore commis des actes répréhensibles. Alors, on offrait des enfants à Moloch et tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? De sorte que sur les autels des païens, vous avez le cri du sang. Parce que c'est le sang qui expie pour les péchés. Mais alors, dans le peuple d'Israël, Dieu avait donné des ordonnances et les sacrifices, eh bien, le coupable pouvait offrir un agneau, mais qui devait être comment cet agneau? Boiteux? La bête qui est malade? Non, mais c'est ce qu'on était arrivé à faire. Hein. Lisez Malachie, vous verrez. Ce qu'on faisait, on débarrassait pour les sacrifices d'un bétail qui n'était pas convenable pour nous. Et pour Dieu, c'était toujours assez bon, mais on pourrait aussi dire que pour Dieu, il y a bien des choses, c'est toujours assez bon pour Dieu. Alors qu'on devrait donner ce qui est le meilleur. Mais celui qui offrait son sacrifice, il venait, et ce qu'il devait comprendre, c'est qu'il méritait, son péché méritait la mort. Hein. Parce que vous voyez, la transgression des commandements, pour n'importe quel commandement, si tu l'avais transgressé, c'était la mort. Il n'y avait qu'une peine, c'était la mort. Alors, on mettait les mains sur la victime et on confessait son péché. Et c'est comme si le péché passait sur la victime qui devait être son défaut. Et alors, on égorgeait la victime à la place du coupable. Mais l'homme qui avait péché se rendait compte qu'au fond, il aurait dû mourir. C'était tout un enseignement. Mais ce que nous apprenons par la parole, c'est qu'il fallait un sang plus excellent que le sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Parce qu'il fallait toujours recommencer. Tandis que par le sang de Christ, cet agneau sans défaut et sans tâche, préconnu dès avant la fondation du monde, eh bien, par son seul sacrifice, le sacrifice de Christ, fait une fois pour toutes, sur la croix, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés, nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est une fois pour toutes. Jésus n'a pas à être crucifié encore. Il a été crucifié une fois pour toutes. Il s'est offert, lui, l'agneau de Dieu, pour nos péchés. Et ses péchés, il les a vraiment pris sur lui et ça donnait ceci. Alors, est-ce que vous croyez le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils? Là, il faudrait lire, je vous l'ai dit, Ésaïe 53, il a porté nos péchés. 700 ans avant que le Christ ne vienne sur la terre, Ésaïe a eu la vision de ce que ferait le Messie, et il a écrit ce chapitre 53 d'Ésaïe sous cette forme de ce qu'on appelle le passé prophétique. Il annonce une chose qui doit venir, mais il en parle comme si elle était passée. Il a une vision si nette des choses qui vont venir, qu'il en parle comme si c'était déjà fait. C'est la forme du passé prophétique. Certainement, il a porté nos langueurs, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos péchés, pour nos iniquités, il a été meurtri pour nos transgressions. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le croyez? C'est là le témoignage que Dieu rend par l'esprit prophétique déjà au temps d'Ésaïe. Et c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez lire aussi le psaume 22 qui nous parle du Seigneur qui a donné sa vie pour nous, accomplissant ainsi les prophéties. Et c'est ainsi que par l'effusion de son sang, nous sommes purifiés de tout péché. C'est Dieu qui nous le dit. Et toutes les images déjà dans l'Ancien Testament nous parlaient de cela. L'agneau pascal, par exemple. Vous vous souvenez de l'histoire d'Israël en Égypte, quand il a été question que le pharaon a endurci son cœur et que le moment est venu, Dieu a parlé une fois, deux fois, trois fois, le pharaon n'y a pas pris garde, on lui disait « laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ». Il disait oui, après il disait non, il a d'abord dit « qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, comme aujourd'hui, qui est le Seigneur pour qu'on obéisse à sa voix ?» Eh bien, à un moment donné, après tous ces endurcissements personnels du pharaon, il y a une chose terrible, il dit « Et Dieu endurcit son cœur, on ne se moque pas de Dieu. » Il y a un temps où moi j'endurcis mon cœur, mais la patience de Dieu, eh bien, a un terme, et puis c'est lui qui endurcit notre cœur, et c'est fini. Alors, il n'y a plus de salut possible. C'est pourquoi il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ne résistez pas au Saint-Esprit qui vous a convaincu de péché. » Mais est-ce que nous avons eu une conviction de péché? Ou bien est-ce que nous avons simplement le sentiment que on n'est pas si pécheur que cela? Vous me dites que vous n'avez pas fait des péchés grossiers. Je veux bien le croire. Mais si vous n'avez pas accepté Jésus, vous êtes un méchant. Et vous êtes une méchante, vous n'aimez pas ce qui est l'amour. C'est juste ça pour être méchant. ce qui m'a prouvé la méchanceté de mon cœur. J'étais élevé par des parents chrétiens, très fidèles, très pieux, mais ce qui a prouvé la méchanceté de mon cœur, c'est que je n'aimais pas vraiment le Seigneur. On aime un tas d'autres choses. On adore tout autre chose. Quand vous entendez les conversations des gens, ils ont tout le temps le mot adorer sur les lèvres. Mais qu'est-ce qu'ils adorent? N'importe quoi.
Comme je l'ai dit, même le fromage.
Plus ils sont mauvais, meilleur il est. Notre adoration, nous sommes prosternés devant le fromage.
Ou alors tel chocolat, ou alors tel cinéma, ou alors...
C'est n'importe quoi. Oh, j'adore. Homme de paille. On devrait changer aussi notre langage. La louange sera continuellement. Je t'aime, oui, éternellement. Aimer le Seigneur et oser le dire. On a un objet pour nos affections et nous l'aimons. Il est tout pour nous. On chante quelquefois, mais là aussi je dis, mes amis, et je le répète, hein, on blasphème en chantant. On dit des choses extraordinaires, puis on répète ces petits cœurs hein, qui nous font monter presque au septième ciel, et puis on se désintègre après en temps, sans parachute. Mais dans la réunion, là, ça marche, hein. Vous chantez, vous vous déconnectez, là, on part. Mais ce qu'il nous faut, c'est la réalité, peut-être moins de bruit, et plus de réalité, de sérieux. Et vous savez, quand je dis sérieux, ça ne veut pas dire une longue figure, un long visage. Non. Pas une casquette. D'ailleurs. Ça dépend des formes. Mais nous voulons être des gens heureux, du reste Dieu est un être bien heureux et nous voulons être en contact avec lui. Alors, si vous avez reconnu donc la parole de Dieu qui est le fait que Christ est mort et que vous avez saisi qu'il est mort pour nos péchés, c'est vraiment pour nos péchés. Vous avez lu la fin du chapitre 4 peut-être, en lisant le chapitre 5, vous avez dû bien sûr vous souvenir du dernier verset du chapitre 24. Il est dit que Jésus-Christ, nous croyons en celui qui a ressuscité des morts, notre Seigneur Jésus-Christ, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Voilà ce que vous avez dans le genre. Alors, étant donc justifiés par la foi, c'est-à-dire en croyant que Jésus-Christ est mort pour nos fautes, et en croyant qu'il est ressuscité, c'est un fait, pour notre justification, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'il le dit? C'est l'Écriture. Enfin, nous avons la paix avec Dieu. Est-ce que vous l'avez? Nous avons la paix avec Dieu. C'est pas une question de sentir, c'est Dieu qui vous parle. Et quand Dieu parle, je ne m'occupe pas de mes sentiments. J'écoute sa parole et je crois sa parole. John Bunyan, qui a été autrefois en prison en Angleterre, a écrit un livre qui s'appelle, vous avez peut-être lu, Le voyage du chrétien, du père. Hein? Et il raconte qu'à un moment donné, il y a trois personnes, et il y a trois personnages. Il y a Monsieur Fait, F-A-I-T, un fait. Hein? Il y a un personnage qui s'appelle Fait, et puis il est suivi par un autre personnage qui s'appelle Foi. Et puis, il y a un troisième personnage qui s'appelle Expérience. Hein? Alors, il y a les trois. Il y a Fait, il y a Foi et Expérience. Alors, Fait avance rapidement et avec assurance. Hein? Et il est suivi par qui? Par Foi. Et tant que Foi regarde Fait, ça marche bien. Hein? Mais quand Foi veut regarder Expérience pour voir s'il suit, il perd l'équilibre. Et il tombe avec la vieille expérience. Pourquoi? Parce qu'il a détourné les yeux du fait pour regarder ce qui arrivait à l'expérience. Si vous regardez seulement à vos expériences, parce qu'au fond, c'est toujours vous qui êtes là, vous êtes toujours centré sur vous-même, eh bien, vous perdez l'équilibre et puis vous tombez. Hein. C'est vrai, ça. Vous ne devez pas avoir vos yeux fixés sur des expériences, mais c'est toujours ce qu'on veut, hein. On veut des expériences d'abord. Vous devez avoir vos yeux fixés sur le fait. Et quel est le fait? C'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Et j'ai eu, quand je suis venu au Québec, justement pour la première fois, j'étais très, très passablement souffrant. Et la parole qui m'a été donnée à Nice, alors que j'allais prendre l'avion pour Paris, puis ensuite Montréal, c'était cette parole. Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Si j'avais regardé à ce que je ressentais, pourtant c'est ici au Québec que j'ai eu la délivrance, mais si j'avais regardé à ce que je ressentais, je ne serais jamais venu au Québec. Tellement j'étais mal. Mais j'avais reçu cet appel, alors il fallait que j'aille. Et le docteur m'a dit, Racine, vous êtes un fou de partir. C'est un docteur juif. Il est venu encore le matin pour me dire, mais ne partez pas. J'ai dit, écoutez, docteur, moi j'ai lu ça ce matin. Le Seigneur m'a donné cette parole. Puis il a regardé ça. Il a dit, alors moi je peux rien dire. Et il a fermé la bouche. Il m'a laissé partir. Bien oui. Parce que si vous regardez en arrière, le sillon ne sera pas droit. Si vous voulez que le sillon soit droit, si vous avez mis la main à la charrue, quand vous avez pris une décision, vous allez vous foncer. Hein? Et puis, le sillon est droit. Ne vous regardez pas en arrière. Vous ne regardez pas en arrière. Regardez droit devant vous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, voilà ce que nous disons. Les faits et les expériences, ou les sentiments, ce sont des faits. Alors, Jésus est mort sur la croix. La parole de Dieu nous dit pourquoi il est mort. Il est mort pour nos péchés. Et même si Dieu n'a pas répondu, c'est parce qu'il fallait qu'il y ait expiation totale. Et justement, s'il y avait expiation totale, eh bien, nous aurions la conscience vraiment libérée. Le pardon que Dieu voulait que nous ayons, c'est un pardon qui devait reposer sur une justice accomplie, sur une justice satisfaite. Voilà pourquoi ma conscience est en paix. Quelqu'un a payé pour moi. Je ne suis plus dans le doute. Et Dieu serait injuste s'il vous réclamait quelque chose. C'est ce que vous avez lu dans le chapitre 3 des Romains. Il est dit que Dieu serait injuste s'il ne justifiait pas ceux qui croient au sacrifice du Christ. Jésus n'avait pas à payer pour lui. Alors, pour qui a-t-il payé? Si vos dettes ont été payées par un ami, est-ce que votre créancier a le droit de vous réclamer quelque chose? Oui ou non?
Non.
Vous êtes au clair là-dessus. Le créancier n'a pas le droit de vous réclamer quelque chose. Eh bien, Jésus a payé. Et il a payé à quel prix? Il avait déjà tout donné, étant en forme de Dieu, de condition divine. Il s'est abaissé lui-même. Et on l'a vu quelquefois dans les camps, tous les degrés de l'abaissement du Christ. Il est allé, il est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et il nous a rachetés entièrement. Et cette vie qu'il a donnée était une vie telle qu'elle rachète qui? Tous les pécheurs. Alors vous voyez comme nous sommes petits et mesquins quand nous disons mais comment? Est-ce à cause de la faute d'Adam, la faute d'un seul, on est tous pécheurs? Oui, mais je vous dis, à cause de la justice d'un seul, tout peut être. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? C'est le chapitre 5 que vous avez lu. Il y a deux chefs. Adam, qui a fait de nous des pécheurs, nous sommes tous des pécheurs, mais il y a le second Adam, Jésus, qui, par sa seule justice, a fait de nous des justes. De sorte que la grâce se glorifie vis-à-vis du jugement. Vous avez lu tout cela. Alors, le Christ n'est pas seulement mort, parce que si Jésus était seulement mort, on pourrait dire, bien, il était un grand martyr. Mais ça nous apporte quoi? Il y a eu beaucoup de martyrs. Mais Jésus n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Et Dieu a donné à connaître que son sacrifice, il l'avait reçu, il l'avait accepté, que Dieu maintenant était satisfait. La justice de Dieu est satisfaite. Alors pourquoi auriez-vous peur? Je reviens à l'histoire de l'Égypte, le soir où l'ange de l'Éternel devait frapper les premiers-nés d'Égypte, et ils étaient avertis, n'est-ce pas, que l'ange allait passer. Mais qu'est-ce que Dieu a commandé au père Israël, par la bouche de Moïse? Chaque père devait, entre les deux soirs, c'est-à-dire à 3h de l'après-midi, prendre un agneau qu'on avait mis en garde pendant 4 jours, un agneau sans défaut et sans tache, et puis devant son enfant, son fils, qui aurait dû mourir, lui, dans cette nuit, par l'ange destructeur, on égorgeait l'agneau et on mettait le sang où sur les linteaux de la porte. Le sang était donc à l'extérieur. Et puis ensuite, l'agneau, qu'est-ce qu'on en faisait? Il était rôti, et pendant la nuit, alors vous avez ça dans le chapitre 12 de l'Exode, on mangeait debout l'agneau rôti. L'ange destructeur avait passé pendant la nuit, sur le minuit. Et là où il n'y avait pas le sang, qu'est-ce qui se passait? L'enfant mourait. Alors, essayez de vous mettre maintenant dans la peau de l'enfant israélite. La table était servie, la mère, les herbes amères aussi, et puis le pain sans levain, ils étaient prêts au départ, et ils mangeaient l'agneau rôti, le bâton à la main, la ceinture autour du rein, donc des gens prêts à partir. Mais le fils, il aurait pu dire, mais papa, j'ai peur, mais j'ai peur, si je suis frappé, moi. Qu'est-ce que le père pouvait lui dire? Le sang est... Est-ce que l'enfant voyait le sang? Non, il ne le voyait pas. Mais qui est-ce qui allait voir le sang? L'ange destructeur. Je verrai le sang. Alors, vous, est-ce que vous êtes en dehors ou est-ce que vous êtes en dedans? Vous êtes en dedans. Alors, qu'est-ce que vous devez avoir? La paix. Si vous n'avez pas la paix, qu'est-ce qu'il y a alors dans votre cœur? Un manque de foi. Vous doutez? Mais le sacrifice a été accompli. Vous n'avez pas à douter. Repoussez le doute comme étant quelque chose qui vient de l'ennemi de Satan qui ne veut pas que vous soyez en paix. Or, justement, étant justifié sur le principe de la foi, vous l'avez lu, vous avez la paix avec Dieu. Mais la paix avec Dieu, vous ne l'avez pas parce que vous avez eu une bonne vie. L'enfant de l'Israël était comme un enfant égyptien, mais le père avait cru et il avait fait ce sacrifice de l'agneau et l'enfant l'avait vu cela. Et il savait que Dieu avait dit, je verrai le sang. Alors, vous pouvez manger l'agneau rôti, vous pouvez vous nourrir de la personne du Christ qui est pour nous l'agneau sans défaut. Et c'est quelque chose de merveilleux. Vous comprenez pourquoi Jérémie disait que les paroles se sont éprouvées, je les ai mangées. Et tout le monde me dit, mais moi je vais à l'église, mais mon pasteur il me donne rien, etc. Vous vivez de ce que votre pasteur vous a. J'espère que vous avez une vie personnelle avec le Seigneur. Alors nourrissez-vous du Seigneur. Et puis réunissez-vous entre vous pour nourrir, pour célébrer. Le Seigneur, c'est ça qui compte. Le Seigneur est le centre de notre rassemblement. Eh bien, que la parole habite en vous avec abondance. Alors, Dieu, dans son amour, a ressuscité son Fils. Par le sang de Christ, nous avons maintenant la justification. Le sang a été versé, expiation a été faite. Pour nos péchés, nous avons la paix avec Dieu, voilà quant à tout notre passé, nous avons trouvé accès à cette faveur dans laquelle nous sommes, voilà pour le présent, nous sommes les objets de la faveur de Dieu, la grâce, nous sommes dans la grâce, et puis pour l'avenir, qu'est-ce qu'il y a? Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Paix pour le passé, quant à tout votre passé, c'est réglé. Paix pour le présent, parce que vous avez la grâce, vous avez vraiment reçu cette grâce, vous savez que vous pouvez compter sur la grâce de Dieu, et puis, pour l'avenir, qu'est-ce qui est devant vous? La gloire. Et non seulement cela, mais il y a encore les épreuves, comme c'est merveilleux. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture, vous l'avez vu? Le chapitre 5. Et non seulement cela, vous avez la paix, vous avez la grâce, vous avez la gloire, et en plus, les épreuves. Pourquoi? Et on a besoin d'être éduqué, on a besoin de grandir. Les racines d'un chêne ne poussent qu'en temps d'orage, dit-on. Eh bien, il nous faut aussi que nous, nous soyons éprouvés, nous sommes les enfants de Dieu. Et comme le Fils unique a dû apprendre lui-même, quoiqu'il était le Fils unique, hein, qu'il n'avait jamais eu à obéir, il a appris l'obéissance par quoi ? Par les choses qu'il a souffertes. Et alors nous, nous voudrions être les enfants d'adoption, mais pas de discipline. On veut être sauvé, mais sans discipline. On ne progresse pas. Et les enfants qui n'ont pas de discipline, eh bien, ce sont des bâtards. Mais si vous êtes fils, vous avez un père qui vous corrige. Et alors on accepte les épreuves comme étant de la main de notre père qui nous aime. Si on aime tellement notre enfant qu'on lui laisse tout passer, un jour il nous crachera la tête. Il nous dira, mais comment toi, c'était mon père et tu ne m'as pas corrigé. Pourquoi tu m'as laissé faire ça? Alors, nous devons comprendre que notre père, parce qu'il nous aime, il nous discipline. Mais non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations, sachant quoi? Que la tribulation produit la patience, et la patience, l'expérience, et puis l'expérience. L'espérance. Parce que nous allons au-devant de la réalisation de tout ce que le Seigneur nous a promis. Mais nous ne sommes pas sauvés par les promesses de Dieu, nous sommes sauvés par un fait. Comprenez-le bien. Nous ne sommes pas sauvés par des promesses que Dieu aurait faites. Nous sommes sauvés par un fait. Le sacrifice de Jésus. Vous ne pouvez pas l'anéantir. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Mais Dieu a voulu que nous soyons rassurés, que son sacrifice était accepté, et il nous a donné l'assurance du sacrifice accepté par la résurrection. Jésus est ressuscité. Il est réellement mort, mort pour nos fautes, et puis il est dit ressuscité pour notre justification. Pour notre justification. Et c'est comme ça que nous savons que nous sommes justifiés, rendus par l'œuvre de Christ. Mais alors, comment maintenant pouvons-nous devenir enfants de Dieu? Le Fils est retourné auprès du Père, il nous a envoyé son Esprit, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Eh bien, si nous acceptons Jésus-Christ, mort pour nos fautes, sur la croix, dont le sang a coulé, et qu'est-ce qui arrive? Cette vie qui était dans son Fils vient en nous, nous régénérer par la puissance du Saint-Esprit. Notre esprit est remis en contact avec le Seigneur et maintenant c'est son œuvre de transformation qui va s'accomplir. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes encore dans cet état-là ou bien l'avez-vous accepté? À tous ceux qui l'ont reçu. Il est venu chez les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté, du sang et de la chair, mais de Dieu. Alors si vous êtes né de Dieu, vous êtes l'enfant de Dieu. Vous êtes l'enfant de Dieu. Et alors, voilà. Ce que nous apprenons dans ce chapitre 5, c'est que si par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, par la justice d'un seul, Jésus-Christ, tous les hommes peuvent être sauvés. La grâce est offerte à tous les hommes. De sorte que ce qui perd quelqu'un, ce n'est pas le péché d'Adam, c'est le refus de la grâce. Et ce refus de la grâce manifeste que vous refusez qui? Jésus. Et c'est la plus grande offense qu'on puisse faire à Dieu. Vous pouvez être un homme très bien, un homme distingué, tout ce que vous voulez, hein, mais si vous refusez son Fils, c'est la plus grande offense que vous pouvez faire à Dieu. Car le Fils est l'objet de tout l'amour du Père. Et si vous méprisez le Fils, qu'est-ce que vous méprisez? Vous méprisez le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, il n'honore pas non plus le Père. Je ne vais pas vous donner toutes les citations, mais vous pouvez les retrouver dans vos Bibles, vous allez lire vos Bibles. Quelqu'un me disait au moins, vous nous donnez le goût des choses de Dieu, le goût de la Bible. Bien, si au moins ici, dans cette retraite, vous aviez davantage le goût des choses de Dieu, parce que vous n'avez pas besoin de moi, moi je vais disparaître, mais vous avez besoin d'avoir faim et soif d'en connaître davantage. Et le Seigneur veut vous bénir. Il vous a donné son esprit. Et alors laissez cet esprit agir en vous pour que toutes les puissances de votre âme soient subjuguées et que l'on voit cette vraie transformation à l'image du Seigneur. Mais ce que vous avez pu lire ensuite dans le chapitre 6 des Romains, après avoir cru à cette expiation de vos péchés par le sacrifice du Christ, on pourrait dire, eh bien voilà, alors, si là où le mal abondait, la grâce a surabondé, eh bien, péchons afin que la grâce abonde, vous comprenez bien. Quand vous avez était devant la croix et que vous avez compris que le péché était si odieux aux yeux de Dieu que lorsqu'il a été sur son fils, est-ce que Dieu a épargné son fils?
Non.
Lui qui n'a pas épargné son fils. Comment pourrait-il nous épargner? Jésus a été, lui qui était sans tache, sans défaut, et bien portant les péchés des autres, nos péchés, il a été frappé. Toute la colère de Dieu est tombée sur lui. Alors, si la colère de Dieu est tombée sur le Fils, à la croix, ici, est-ce qu'elle pourra tomber encore sur nous?
Non.
Vous êtes sûr?
Oui.
Sûr de sûr?
Oui.
Toutes?
Oui.
Vous n'êtes pas laissé en arrière. Étant justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et alors, vous arrivez au chapitre 8 où il est dit, il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. C'est pour vous cela. Alors pourquoi est-ce que vous doutez encore? C'est comme l'enfant dans la maison, est-ce que vous êtes dedans ou dehors? Si vous êtes dedans, le sang vous couvre. Mais oui, mais alors vous me dites, oui, mais voilà, ça je l'ai compris, j'ai accepté Jésus comme sauveur, mais je ne suis pas transformé, c'est ça qui ne va pas. Dans mon expérience, je ne réalise pas ce que je devrais réaliser. Si vraiment Christ est mort pour moi, oui, ben qu'est-ce que, si vraiment Christ est mort pour toi, qu'est-ce que tu dois comprendre? Si un est mort pour tous, ça me rappelle une prédication que j'ai dû faire au service militaire en Suisse pendant la guerre. C'était au mois de mai, quand la Suisse risquait d'être envahie par Hitler. Mon capitaine m'a demandé de diriger un culte militaire. J'avais jamais fait ça, mais enfin, on crie à Dieu, hein, qu'il nous donne ce qu'il faut. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Il y avait les Alpes devant moi, on était à Lesin, et puis il y avait tout. Toute la compagnie et les soldats catholiques ou protestants, tous étaient là. Et puis, j'étais chargé de faire ce culte militaire. Puis, il y avait notre drapeau suisse, là. Puis, là, il y avait les Dents du Midi en face de moi. Et les gens, au lieu d'être à l'église, ils étaient tous là, hein, parce que c'était la première fois qu'il y avait un culte militaire là. Mais c'était moi qui devais le faire, je n'avais jamais fait de culte militaire. Et tout à coup, eh bien, voilà l'inspiration. Vous savez quelle est notre devise en Suisse? Un pour tous. 12 pour 1. Comme aussi, une fois, on m'a demandé alors en France de faire un discours patriotique. J'ai pris liberté, égalité, fraternité. Liberté, il n'y en a point. On croit libre, mais on ne l'est pas. Égalité, il n'y en a point. Et puis fraternité, non plus. Alors on peut très bien bâtir un message très évangélique sur liberté, égalité, fraternité, pour montrer que la liberté, on l'a sans Jésus-Christ. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pourquoi ne sont pas de Jésus-Christ? Et puis, d'égalité, il n'y en a point en dehors de Jésus-Christ, tandis que Jésus-Christ, quand il vient, les pauvres bergers sont élevés jusqu'à lui, puis les mages descendent à ses pieds. Hein. Les riches descendent à ses pieds, puis les pauvres sont élevés jusqu'à lui. Il y a l'égalité en Jésus-Christ. Puis la fraternité, pour être frère, qu'est-ce qu'il faut?
Il faut avoir un père. En fait, si on a que Staline, on est des camarades. Mais si nous avons le même père, eh bien, vous voyez, on peut les rejoindre, et c'est ça qu'il nous faut. Jésus savait rejoindre les âmes auxquelles il parlait. La femme samaritaine, elle venait pour puiser de l'eau. Il lui a parlé de l'eau. Il lui a pas dit, tu sais, moi, je peux te donner beaucoup d'abord, non? Il a dit, donne-moi à boire. Quelle humilité. Moi, je trouve ça, c'est merveilleux. Jésus a besoin de vous. Il a besoin de cette femme. Alors, elle est touchée, parce que un juif ne s'adresse pas à une samaritaine. Lui a montré qu'il avait besoin d'elle. Et pourtant, Jésus, n'est-ce pas, il savait très bien qu'elle vit avec cette femme. Et qu'à cette ruche à laquelle il allait boire, qu'est-ce qu'il buvait? Son amant. Mais le Seigneur sait très bien que ce n'est pas ça qui va le soulier. Ce n'est pas de boire à la même cruche que l'amant. Ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Vous l'avez vu. Alors Jésus vivait ce qu'il disait. On pouvait contrôler que son enseignement était vrai. Nous, on pense toujours que ce n'est que par une espèce de séparation extérieure qu'on est purifié, qu'on est plein de péché dans son cœur. Non, non, on ne voit pas ces gens-là, non, ce sont des impurs. Puis nous, on est plein de jugements dans notre cœur. Oh, que Dieu soit vrai, que tout homme soit menteur, et que je sois amené par le Saint-Esprit à me juger moi-même, et à ne plus juger les autres, et à ressembler un petit peu à mon Seigneur. Mais si le Christ vit en vous, il y aura en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous en aurez des sentiments. S'il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, si vous croyez les faits de Dieu, vous aurez les sentiments de Jésus. Et vous commencerez à expérimenter une vie toute différente. Et c'est de cela que nous avons besoin. Alors, Christ nous a donné la vie éternelle, cette vie qui est dans son Fils. Dieu nous l'a donnée et cette vie est en nous et désire se manifester dans notre vie. Mais comment est-ce que je trouverai la force? Vous êtes arrivé après le chapitre 6, au chapitre 7 qui vous parlait de la loi, mais encore un mot sur le chapitre 6. Comment pourriez-vous pécher afin que la grâce abonde? Non, vous avez compris que le péché est en horreur aux yeux de Dieu parce que vous avez vu quelle souffrance le Seigneur a enduré. Il a été l'homme de douleur. Alors, si le Christ est mort, tous donc sont morts. Hein? Un pour tous, tous pour un. Un pour tous, c'est Jésus pour tous. Alors tous, nous devons être pour lui. Et vous savez, ça a mordu sur les âmes. Ça. Quand je pouvais leur parler de cette devise, tous, un pour tous, mais tous pour un. Nous devons tous être pour le Seigneur, pour le Christ. Et vous savez que ces nuits du mois de mai où la Suisse devait être envahie, les Allemands étaient à la frontière, puis il y a eu la charnière de Sedan là, qui a sauté de la ligne Maginot, et c'est comme ça qu'on était épargnés. Mais jusqu'à 4 heures du matin, à notre conseil fédéral en Suisse, le général Guizon, on n'avait qu'un général, il était à genoux avec les conseillers fédéraux qui avaient la foi, et il priait. Voilà ce qu'on peut encore trouver, voilà encore ce qu'on peut faire. Il y a des hommes de Dieu qui savent encore s'agenouiller. Tout général qu'il était, général Guizon, que j'ai beaucoup aimé, eh bien, il savait se mettre à genoux. Parce que qu'est-ce que la Suisse pouvait faire pour empêcher l'envahissement, hein? Si Hitler voulait envahir, il pouvait nous envahir. Mais Dieu a stoppé. Puis on a été une fois encore épargnés. Mais ce n'est pas pour toujours, hein? C'est cela que nous devons bien comprendre. Mais, mes amis, ayez affaire avec le Seigneur et vous serez conduits dans votre vie. Reconnaissez les faits et croyez-les. Alors, nous avons vu comment nous pouvions être délivrés de la puissance du péché. On est délivré de la peine du péché. Nos péchés ont été expiés de sorte que la colère de Dieu n'est plus sur nous. Nous sommes passés de la mort à la vie et nous ne viendrons pas en jugement. Vous connaissez ce verset quand vous exposez le champ du salut. chapitre 5 de Jean, verset 24, n'est-ce pas ? Celui qui croit en moi, n'est-ce pas, ou qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il n'est pas dit qu'il l'aura, il a la vie éternelle. Est-ce que vous l'avez, la vie éternelle ? Pourquoi est-ce que vous le savez ? Comment le savez-vous ? Parce que Dieu l'a dit, pas parce que vous le sentez, mais parce que Dieu l'a dit, vous le dites. Et alors vous le croyez. Vous croyez le témoignage qu'il a rendu à votre sujet. Il ne se trompe pas, vous étiez pécheur. Ça, vous pouviez le contrôler. Hein. Moi, je l'ai contrôlé, je suis un pécheur. J'en suis un vrai. Hein. Ne vous illusionnez pas. Hein. Sinon, je ne serais pas un sauvé. Alors, je sais que je suis un pécheur. Et je le reconnais. Mais, je sais que Dieu me dit que je n'ai plus à regarder à ce que je suis, mais à ce que Jésus a fait. Et je crois le témoignage que Dieu me rend au sujet de son Fils. Et c'est cela qui honore Dieu. Croire Dieu. Croire que c'est vrai ce que Dieu nous dit et que son Fils est parfait et que je suis justifié par la foi en lui. Comme Abraham, vous avez lu dans le chapitre 4, Abraham a été justifié parce qu'il a cru. Mais est-ce qu'il a cru en se regardant? Qu'est-ce qui lui était promis à Abraham? Une postérité. Et quel âge avait-il? À peu près mon âge. Il avait 100 ans. Et puis la vieille Sarah, qu'est-ce qu'elle avait? Il y avait longtemps qu'elle n'avait plus ses menstruations. Elle avait plus que les femmes ont coutume d'avoir. C'est clair. Mais dans la Bible hébraïque, c'est plus cru. Hein? Bon. Alors, si Abraham regardait à sa chère Sarah, qui avait quand même gardé beaucoup de beauté malgré ses rides, eh bien, il ne pouvait pas croire ça. Et puis, s'il regardait à lui-même, il était brûlé. Mais Dieu avait promis. Alors, il a cru contre espérance. Il n'a pas regardé à lui-même, à son corps déjà amorti, comme on peut dire. Il n'a pas regardé à lui-même. Il a cru Dieu. Et c'est cela qui lui a été compté à justice. Je voudrais que ces choses qui vous paraissent peut-être difficiles à comprendre, c'est pas si profond que ça. C'est clair. Si vraiment vous vous en nourrissez. Mais comprenez qu'un type comme Luther, qui a fixé au fond la langue allemande, eh bien lui, il travaillait, hein, il lisait cet épître aux Romains une fois par semaine. Il disait pas, au moment où j'ai déjà lu ça, ça peut plus rien me donner. Mais il s'en est imprégné et nous devons nous imprégner de la parole. Et alors cette parole n'est plus dans nos Bibles, mais elle est en nous, que la parole de Dieu habite en vous richement. Et vous savez, c'est un médicament extraordinaire. Ça nous tient debout. Vous aimez bien dire au Québec que vous voulez être debout. Mais si vous voulez être debout au Québec, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Et vous vous tiendrez debout, parce que lui vous tiendra debout. C'est lui qui est debout en nous. Et bien que la grâce du Seigneur soit avec vous, et qu'il nous prépare aussi pour demain. Là, ce que nous avons vu, c'est que si nous sommes non seulement des gens qui croient que Jésus est mort pour nous, mais pour qu'on soit libérés, il nous faut accepter ce que Dieu nous dit, que non seulement c'est Jésus qui est mort sur la croix, mais d'après le 3 de Jean, il nous a montré qu'il était venu pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous nous disons très justement, au fond, pour que je ne pèche plus, qu'est-ce qu'il faudrait ? Que je meure. Il faudrait que je sois mort. Si j'étais mort, je ne pécherais plus. Parce que sur un mort, vous pouvez le tenter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le péché n'a pas de pouvoir sur un mort. Mais je n'ai pas le droit de me suicider. Alors comment mourir sans me suicider? Bien, Jésus est venu pour mourir à ma place. Mais il n'a pas voulu seulement mourir à ma place, mais me donner la possibilité de mourir en lui pour que sa mort devienne ma mort. Alors, il est question non pas de faire des efforts, il est question de s'abandonner. Abandonnez-vous, cessez vos luttes vaines, jetez-vous dans ses bras, et ses clous à lui vous transperceront aussi. Avec le Seigneur, vous mourrez, vous restez sur la croix, vous êtes enseveli avec lui, puis vous restez sous l'eau, vous restez dans la tombe, comme j'ai été ressuscité, vous ressuscitez avec lui. C'est cela qui est merveilleux, et ça c'est symbolisé par quoi ? Par le baptême, n'est-ce pas ? Qui, dans l'Église primitive, était donné par immersion, parce que ça gardait l'image. Alors, on était enseveli avec lui. On confessait qu'à notre vie passée, on était mort à la vie passée. Puis maintenant, qu'on vivait de quelle vie ? D'une vie améliorée ? D'une vie nouvelle. Mais alors, si on a une vie nouvelle, c'est pour marcher comme autrefois ? Non. Et c'est ce que nous verrons demain matin. Parce que avant, qu'est-ce qui nous conduisait ? C'était la chair et le péché. Le péché dans la chair. Et qu'est-ce que ça donnait, le péché dans la chair ? Oui, ça finit par donner la mort, mais en attendant, ça donnait une ancienne manière de vivre qui est appelée le vieil homme. Hein ? Et je n'irai pas plus loin ce soir, mais je voudrais que vous puissiez comprendre ces expressions. Le vieil homme, c'est l'enfant de la chair et du péché. Le péché dans la chair, il produit une certaine manière de vivre qui est appelée le vieil homme. Mais il nous est dit dans le chapitre 6 que notre vieil homme, il a été crucifié. Alors, vous n'avez pas à crucifier le vieil homme. Vous avez à croire qu'il a été crucifié. Portez sur vous ce jugement-là. Tenez-vous pour mort. Dieu vous dit que vous êtes mort. Vous dites, mais non, mais moi je me sens tellement vivant. Ça grouille. Vos grouillements. Ne vous occupez pas de vos grouillements. Occupez-vous de la parole du Seigneur qui vous dit que vous êtes mort. Lui ne se trompe pas. Il ne s'est pas trompé quand il nous a dit ce que vous voyez dans notre cœur. Alors, s'il vous dit que vous êtes mort, c'est que c'est vrai. À ses yeux, vous avez disparu en tant que pécheur. Pour que vous n'ayez plus à vous occuper de vos péchés, vous pouvez déculpabiliser. Mais il faut l'avoir abandonné. Il faut avoir reconnu ses péchés. Alors, le vieil homme a été crucifié. On a trois fois cette expression, et chaque fois, que ce soit dans Romains, que ce soit dans Éphésiens, que ce soit dans Colossiens, le vieil homme est considéré comme déjà mort. Mais ce qui reste encore en nous, c'est la chair. Notre ancienne manière de vivre, qui nous avait été enseignée par nos pères, elle a pris fin à la croix, de sorte que maintenant nous avons une nouvelle manière de vivre. Et cette manière de vivre nouvelle, c'est le nouvel homme. Qui est l'enfant de qui ? De la parole et du Saint-Esprit. Nous avons été régénérés par la vivante et permanente parole de Dieu. Ma vraie mère, maintenant, c'est la parole. Mon vrai père qui m'a engendré, c'est le Saint-Esprit. De sorte que maintenant, la chair est encore là, mais je ne suis plus débiteur à la chair, c'est ce que vous avez lu dans le chapitre 8. La chair peut vous dire un tas de suggestions, peut essayer de vous influencer. Je dis non à la chair. Et puis, maintenant, je suis dirigé par mes nouveaux parents, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Mais ne séparez jamais la parole de Dieu du Saint-Esprit. Vous êtes né d'eau et d'esprit, de l'action de la parole de Dieu qui nous amène à la repentance, à un changement, à une nouvelle orientation, et puis nous sommes maintenant conduits par l'Esprit. De sorte que notre force n'est plus la force de la chair, on n'essaye plus nous-mêmes d'accomplir la loi parce qu'on ne peut pas. Vous avez lu le chapitre 7 des Romains. Et vous n'êtes plus sous la loi qui vous ordonnait mais qui ne vous donnait pas la force de l'accomplir. Et au contraire, la loi, tout ce qu'elle pouvait nous donner, c'était une connaissance plus grande du péché. Le rôle de la loi, c'est de vous amener à vous désespérer pour que vous disiez « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Mais la loi est notre conducteur jusqu'à Christ. C'est un précepteur jusqu'à Christ. Mais maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et c'est pourquoi tout est transformé. Et bien que le Seigneur nous prépare et que vous puissiez vous endormir dans sa grâce et que demain, il continue son œuvre dans nos cœurs et qu'il prépare cette journée du dimanche, que ce soit vraiment le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur pour nous tous. Demain, nous aurons encore une étude et puis l'après-midi, vous aurez un moment pour poser vos questions et puis on terminera par pas un culte de louange et d'action de grâce au Seigneur. Père, nous voulons te demander que toutes ces choses nous deviennent familières. Et nous conduisent à l'amour de la personne de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui désire que son image soit manifestée en nous, dans notre chair mortelle. Tu veux nous faire comprendre que c'est par nous que tu veux continuer ton incarnation dans ce monde. Tu as besoin de nos membres. Nous les employons autrefois pour satisfaire nos convoitises. Mais maintenant, nous voulons te les livrer pour que tu puisses en prendre possession. Autrefois, avec nos membres, nous servions le péché, nous étions esclaves du péché. Maintenant, nous voulons te livrer nos membres, te livrer nos corps, comme nous le dit ta parole, pour que tu puisses nous posséder, nous employer, et que nous devenions vraiment des instruments de ton amour, dans ce monde qui a tellement besoin de connaître cet amour. Et que nous soyons nous-mêmes, individuellement, des lettres de recommandation pour notre Père Céleste. C'est la grâce que nous te demandons, dans l'assurance que c'est ce que tu veux. Et nous savons que quand nous te demandons une chose qui est selon ta volonté, tu nous écoutes. Et que nous avons les choses que nous t'avons demandées. Donne-nous de te remercier. Donne-nous de te louer cette nuit. Et de t'adorer. En Jésus. Amen.
Bien mes amis, une fois encore, j'aime à vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Je veux croire que vous avez passé une nuit de repos et que le Seigneur vous dispose au début de ces journées pour vivre encore ces heures avec lui dans sa présence, dans sa communion, dans son intimité. Ce matin, j'ai souligné sur ce tableau les textes qui doivent s'imposer à nos cœurs pour que cette retraite ait des résultats durables. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Et cet autre passage que vous avez lu dans votre moment hier soir, au chapitre 8 des Romains, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et j'ai demandé au Seigneur que vous puissiez quitter ce lieu cet après-midi en étant convaincu que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parmi les faits divins, il y en a un que je voudrais vous rappeler. Le Saint-Esprit se trouve où maintenant ? Depuis quand ce fait divin existe? Depuis la Pentecôte. Alors, il y a une foule de gens qui demandent le Saint-Esprit en s'adressant au ciel, alors qu'il est venu, et qu'il est là, et que c'est un fait. Pendant l'absence du Seigneur, qui est retourné dans le sein du Père, il nous a envoyé, comme il l'avait promis, un autre Consolateur pour être
quelquefois, comme c'était dans l'Ancien Testament, avec nous, non, pour être avec nous éternellement. Et quand les croyants seront enlevés, l'esprit aussi sera retiré de la terre. Et alors, la marée d'iniquité que l'Esprit Saint retient encore maintenant dans le monde, pour que ce soit encore vivable, la marée d'iniquité couvrira le monde entier. Et Satan, ayant été chassé du ciel, eh bien, sera sur la terre, et ce sera un temps terrible. Ce temps qui vient, cette colère qui s'amasse sur le monde, et à laquelle nous savons que nous allons échapper. Qu'est-ce que nous attendons? La colère? Non. Nous attendons Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Mais le monde s'en va vers la colère de Dieu, vers un jugement qui sera à la mesure de ses iniquités. Mais le croyant, lui, il n'attend pas la colère, il attend Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alors, le Saint-Esprit étant venu, étant dans l'Église, ayant baptisé les croyants de la Pentecôte, les ayant régénérés, ce Saint-Esprit, il est en nous. Depuis quel moment? Depuis le moment où vous l'avez reçu. Vous avez reçu qui? Le Christ. Au moment où vous recevez Christ, ce Saint-Esprit qui vous convainquait de péché, qui était comme au-dessus de cet état chaotique de la terre, comme nous l'avons vu au chapitre 1er de la Genèse, le Saint-Esprit vous pénètre et vient faire sa demeure en vous. De sorte qu'il n'est pas question de demander que le Saint-Esprit vienne en nous. Si vous avez reçu Christ, vous ne pouvez pas ne pas recevoir l'Esprit. L'Esprit vient faire sa demeure en vous. Et vous devez prendre conscience que c'est un fait. Mais cet Esprit qui est en vous, eh bien, il n'opère pas de l'extérieur. Il est entré en vous, comme nous vous l'avons montré ici. Quand vous recevez Christ, l'Esprit vient en vous, vous régénère, et son opération se fait de l'intérieur à l'extérieur. Alors, il est question pour vous de lui laisser toute la place. Et c'est l'œuvre de l'Esprit qui va s'opérer en vous. C'est pas vous qui allez essayer de vous blanchir. Comprenez-le bien? Tant que vous êtes sur ce principe d'essayer de vous améliorer, ne vous restez dans cette noirceur. Ce n'est pas l'état, vous n'arriverez jamais à cet état-là, mais vous arriverez à un état bien supérieur. C'est l'Esprit de gloire qui opère en vous. Mais quelle place avez-vous donné à l'Esprit? Jésus est l'homme qui possédait l'Esprit sans mesure. Et dans la contemplation de la vie de Jésus, vous pouvez contempler ce qui peut être fait en vous. Jésus laissait l'Esprit Saint le posséder entièrement et c'est ainsi qu'il marchait. On ne pouvait pas rencontrer le Seigneur sans rencontrer l'Esprit. Eh bien, mes amis, que nous puissions saisir cette vérité. Maintenant que nous avons reçu Christ, si vous avez reçu Christ, mais il faut l'avoir reçu, il y a un moment où nous recevons Christ, où nous disons « Oui, Seigneur ». Est-ce que vous avez dit votre « Oui » au Seigneur? Vous l'avez dit. C'est un « Oui » positif, un « Oui » définitif. C'est pas sans... Il n'y a pas d'hésitation. Mais quand on dit « Oui » au Seigneur, ça veut dire qu'on renonce à qui? On renonce à soi. C'est tout le message de Jésus. Jésus n'a jamais fait de la propagande religieuse. Ceux qui voulaient le suivre, il leur disait, tu veux me suivre? Renonce à toi. Prends ta croix pour me suivre. Et le Seigneur n'a promis à ceux qui voulaient le suivre qu'une croix. Est-ce que vous êtes d'accord? Et suivre Jésus, où allait-il ? À la croix. Et quelqu'un qui portait sa croix, c'était quelqu'un qui était condamné. On le savait. Eh bien, vous savez que vous êtes condamné, vous allez jusqu'au calvaire, et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est la mort, hein? C'est la crucifixion. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est la mort. Mais, maintenant que nous sommes en Christ, ressuscités en lui, c'est par quoi que nous sommes ressuscités ? Par la puissance de quoi ? Du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit que Jésus a été ressuscité. Et nous aussi, nous sommes maintenant vivants par l'Esprit. Alors, si nous vivons par l'Esprit, qui est l'Esprit de Christ, marchons aussi par l'Esprit. Nous connaissons maintenant notre position. Votre position en Christ, c'est la position qu'il a devant son Père. C'est ça que vous devez savoir. Dieu vous dit qu'il ne vous voit plus que dans les perfections de son Fils. Il n'y a qu'un être duquel Dieu s'est détourné. C'est qui ? C'est Jésus. Dire que Dieu s'est éloigné de vous, ce n'est pas vrai. Quand vous ne sentez pas la présence de Dieu, vous pensez que Dieu s'est éloigné de vous. Il n'est pas éloigné de vous. Il ne s'est éloigné que d'une personne, de son Fils. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vous ne pouvez plus être abandonné. Mais, si vous n'éprouvez pas la présence du Seigneur, ce n'est pas que lui s'est éloigné de vous, c'est que vous, vous vous êtes éloigné de lui. Et alors, vous devez revenir toujours à lui. Vous devez reconnaître ce qui vous a éloigné de lui. Et alors, qu'est-ce qui peut vous éloigner de vous, de lui ? Le péché. Mais si vous êtes mort, vous êtes séparé de l'environnement, alors le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Vous voulez suivre la loi, mais vous savez très bien que la loi, vous ne pouvez pas l'accomplir. Qui est-ce qui a accompli la loi ? C'est Jésus. Qui est-ce qui a satisfait les exigences de la loi ? C'est Jésus. Mais dans sa mort, eh bien, la loi est satisfaite. Celui qui est mort, il est justifié du péché. De sorte que nous sommes morts aussi à la loi. Ce n'est plus la loi qui est notre maître et qui est notre guide, c'est la grâce qui nous a été faite et qui nous porte à donner toute notre affection au Seigneur. Alors, l'affection de l'Esprit, si vous laissez maintenant l'Esprit agir en vous, eh bien, ce sont les affections de l'Esprit qui vont vous posséder. Vous avez une nouvelle nature, parce que nous avons deux natures. Hein. La vieille et les affections de la vieille nature, c'était les affections de la chair et les convoitises. Maintenant, nous avons une nouvelle nature. Et les affections de la nouvelle nature sont des affections de l'esprit. Et la force qui nous fait vivre maintenant, ce n'est pas la force de la chair. La chair, elle est faible, j'espère que vous l'avez compris, notre chair est faible et elle ne peut pas, dit l'Écriture, accomplir la loi de Dieu. Même si vous voulez, elle ne le peut pas. Donc, ce n'est pas le bon chemin. Le vrai chemin, c'est de vous abandonner à la puissance de l'Esprit. Vous vivez par l'Esprit. L'Esprit est venu. Il est en vous. Maintenant, donnez-lui les clés de toute votre vie, de tous les appartements. Mais il y a des gens qui veulent bien avoir le Saint-Esprit, mais ils l'enferment quelque part où vous lui donnez la plus belle chambre de votre vie. C'est pas cela qu'il veut. Il veut toutes les chambres. Et peut-être la dernière que vous réservez pour vous. Moi, je ne sais pas quelle est la pièce que vous conservez pour vous, où Dieu n'a pas la place. Le Seigneur veut avoir toute la place. Et c'est ainsi que nous pouvons contrister l'Esprit. Si vous ne laissez pas l'Esprit vous posséder entièrement, toute chose soit en vous dirigée par l'esprit, eh bien, vous ne pouvez pas réaliser la vie chrétienne authentique. Puissions-nous contempler le Seigneur et voir comment lui, l'homme rempli d'esprit, vivait. Il vivait dans un esprit de prière. Certes, il avait des moments de prière. Mais ce qu'il vous faut comprendre, ce n'est pas périodiquement je fais un moment de prière ou je fais une nuit de prière. Ce n'est pas cela. L'Écriture nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas marmotter des prières. C'est avoir une vie ouverte à Dieu. Il n'y a pas une chose qui soit grande ou qui soit petite aux yeux de Dieu. Tout ce que nous faisons, notre pensée doit être imprégnée, dirigée par l'esprit. Et alors, c'est une prière continuelle. On est dans les affaires, on est dans le travail, dans des choses peut-être qui sont rebutantes, mais l'esprit est avec nous. Il n'y a pas un moment où on est avec Dieu, puis un autre moment où on n'est pas avec Dieu. L'Écriture nous dit, pourquoi suis-je venu ? Et il n'y a eu personne. Pourquoi ai-je appelé ? Et il n'y a eu personne qui répondit. Le Seigneur est toujours là. Il est toujours près de vous. Il est toujours avec vous. Et si vous n'éprouvez pas sa présence, c'est que vous, vous êtes dehors. Il vous faut rentrer en vous-même, comme le fils prodigue. Il avait un père, mais il s'était éloigné du père. C'est pas le père qui était parti. Le père était là. Le fils est parti. Dieu ne vous contraint pas, Dieu ne vous oblige pas. Vous ne vous plaisez plus à la maison, vous voulez voir le monde, bien allez-y. Mais quelle sera votre expérience? Un jour, vous réaliserez, si au moins j'étais encore à la maison, bien vous pouvez revenir. Le Père vous attend toujours. Ayez cette certitude, le Père vous attend toujours. J'irai, je dirai à mon Père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il n'a pas même le temps de faire cette confession. Le Père le serre dans ses bras. Si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Alors l'Esprit est une personne très sensible en nous, ça je le sais. Et vous savez, il contrôle nos pensées, nos paroles et nos actions. Quand les gens me disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, comme si la volonté de Dieu était quelque chose de difficile à connaître. Vous êtes sauvés pour connaître la volonté de Dieu. Paul nous le dit, n'est-ce pas? Il a appris qu'il était choisi par Dieu pour connaître la volonté de Dieu, pour voir le juste et pour entendre les paroles de sa bouche. Et je vois tant de gens qui trouvent que c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. Mais alors vous n'avez pas le Saint-Esprit? Vous n'êtes pas régénéré? Mais le Saint-Esprit, il nous parle. Moi, je ne vois pas la volonté de Dieu par les circonstances. Les circonstances ne me conduisent pas dans le vrai chemin. Les circonstances sont là, justement, souvent comme une épreuve. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit à travers les circonstances. Eh bien, que le Seigneur nous parle et que nous ne soyons pas de ceux qui contristent le Saint-Esprit. On peut l'attrister, on peut le contrister, on peut lui résister et on peut l'éteindre. Mais quand nous faisons cet abandon de notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit devient vraiment notre force et produit en nous son fruit. Le fruit de l'Esprit, ce n'est pas un effort. Le fruit de l'Esprit, c'est le produit de la vie. Si vous avez la vie, vous aurez du fruit. Le fruit de l'esprit est le produit de la vie. Tandis que la chair, elle a des œuvres. Elle fait des œuvres. C'est toujours des œuvres. Et c'est le produit alors d'un effort. Il n'est pas question d'un effort. Il est question d'un abandon. Abandonne ta vie à l'esprit. Laisse l'esprit te diriger. Mais quand il y a une résistance, juge-toi de cela. Oh Seigneur, je me juge de cela. Et puis, quand tu doutes, Seigneur, je me juge du doute. Parce que c'est de l'incrédulité. Si je ne vis pas vraiment ce que je dois vivre, c'est que je suis un incrédule. J'ai le péché de l'incrédulité. Alors, je me juge quotidiennement
instant après instant, de ce qui n'est pas conforme à l'esprit et qui sollicite ma pensée, qui me juge aussi dans mes paroles. Vous savez, on nous dit que les Neuchâtelois, je suis du canton de Neuchâtel en Suisse, sont plutôt portés à la plaisanterie. Hein. Ils aiment bien la plaisanterie, et je le sais. Hein. Mais si je me mets à plaisanter, qu'est-ce que je sens en moi? Le Saint-Esprit contristé, je n'ai plus la même joie, je n'ai plus la même paix. J'étais trop loin. C'est tellement facile de glisser. Hein. Alors stop ou arrête, si vous aimez mieux. N'est-ce pas? Mais vous êtes avertis. Alors ne brûlez pas le passage. Je suis arrêté. C'est ça la vie de l'esprit. Et puis la foi, c'est une foi, non pas qu'on a eu un jour, mais qui est quotidienne, qui est moment après moment, instant après instant, dès le matin jusqu'au soir, nous vivons avec le Seigneur. On ne va pas trouver le Seigneur quelquefois, mais on est avec lui, il est en nous. On est greffé sur le Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Notre vieille nature, c'était un mauvais arbre. Hein. Il est devenu mauvais par la chute. Mais cet arbre, il ne peut produire que des mauvais fruits. Mais dans sa grâce, si nous avons accepté de mourir avec Christ, l'arbre, les branches sont coupées. Et sur cet arbre, qui avait été créé par Dieu, mais qui portait de mauvais fruits, a été greffée une nouvelle vie. On l'a greffée. Et cette vie, c'est la vie de qui? C'est la vie du Christ. Et alors, c'est cette vie-là qui produit du bon fruit. Mais en dessous de la greffe, qu'est-ce qu'il peut y avoir quelquefois? Des bourgeons, hein, qui étaient. Alors ça, ça se coupe. Je m'en juge. C'est pas ça les bons fruits. Les bons fruits, c'est ceux qui sortent de la vie nouvelle, de la greffe. Mais vous êtes toujours le même homme. Vous ne devez pas attendre de voir que le tronc change. Le tronc est toujours le même, mais il y a la greffe et c'est une vie nouvelle. Mais c'est pas le fruit du vieil arbre, c'est le fruit du nouvel arbre. Et c'est cela que vous devez comprendre et laisser s'épanouir la vie du Christ en vous, qui est l'espérance de la gloire. Et si vous laissez vraiment l'Esprit agir, il conduira toutes vos affections vers Christ et vous aurez la vie, une vraie vie, comme nous allons voir ce matin, et la paix. Eh bien, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur pour vous tous. Nous allons vous...